Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. Le Maroc suspend l'ensemble de ses vols aériens depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne. En cause, l'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19 dans ces trois pays. Les célébrations de la fête du Maolid, la Grande Mosquée de Paris organisera une célébration samedi prochain après la prière du Dor. Gros plan dans votre journal sur cette fête avec le président du Rassemblement des musulmans de France, ex-président du Conseil français du culte musulman, Anouar Ghibesh. Une nouvelle hausse significative des prix du carburant au Liban. Une hausse de près de 25% pour le sans-plomb, 15% pour le diesel par rapport à la semaine dernière. Des bombardements de l'armée syrienne ont eu lieu ce matin dans la région d'Idleb. 8 personnes, dont 5 civils, ont été tuées. L'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie basée dans le Rhône a été dissoute aujourd'hui en Conseil des ministres. Une annonce du ministre de l'Intérieur. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient en grève hier. Ils dénoncent la dégradation constante de leurs conditions de travail et demandent l'obtention du statut de fonctionnaire. Entretien dans votre édition avec Julien Pérez, secrétaire départemental de la CGT Éducaction. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris Les Républicains, porte-parole de Xavier Bertrand. Il évoquera les propositions du candidat à l'investiture LR pour la présidentielle en matière d'immigration. Extrait de votre édition. Le Maroc suspend l'ensemble de ses vols depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne en cause de l'évolution de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 dans ces trois pays. Le 5 octobre dernier, Rabat avait déjà suspendu pour la même raison les liaisons aériennes avec la Russie. La Russie qui enregistre quotidiennement des records de contamination au coronavirus. Les célébrations de la fête du Maolid. La Grande Mosquée de Paris organisera une célébration samedi prochain après la prière du Dor. Elle invite les fidèles et leurs familles à se réunir pour, selon les mots de son recteur, Shamseddine Hafiz, partager ce moment de félicité autour d'interventions et d'éloges sur la vie du prophète. Gros plan sur cette fête avec le président du Rassemblement des musulmans de France, ex-président du Conseil français du culte musulman, Anouar Ghibesh.
Cette commémoration de la naissance du prophète nous permet de nous remémorer quels étaient les enseignements de l'islam, quels étaient les enseignements sur lequel le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a insisté. C'était d'abord un message de pardon, un message de miséricorde, parce que le prophète de l'islam a été attaqué, il a été insulté, il a été caricaturé, il a été traité de tous les noms, et à chaque fois il a répondu à la provocation et à la haine par des actes de pardon et de miséricorde. Je pense que là, la commémoration de la naissance du prophète est l'occasion justement de revenir sur ses préceptes et ses enseignements et réinsister sur ces valeurs que symbolise le prophète de l'islam. Il convient également de rappeler que le prophète de l'islam, quand il a justement émigré de la Mecque vers Médine, quand il s'est installé à Médine, il a tenu compte justement de la diversité de la société médinoise, où il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, des croyants, des non-croyants. Et il a mis en place ce qu'on a appelé le pacte de Médine, qui est une véritable constitution du vivre ensemble, dans le respect des croyances et des convictions des uns et des autres. Et là aussi, c'est une très belle leçon qu'on peut retenir à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. C'est ce respect de la diversité, ce respect de l'altérité, ce respect de l'autre d'une manière générale dans ce qu'il est, dans ses convictions, dans ses valeurs, dans ses comportements. Et je pense que à la fois le message de pardon et de miséricorde et le message du renforcement du vivre ensemble sont les deux piliers qu'il faut retenir de cette commémoration de la naissance du prophète de l'islam.
Et vous estimez qu'il est particulièrement important aujourd'hui de mettre en lumière le parcours, la vie du prophète ?
Aujourd'hui, plus que jamais, justement, parce que nous assistons à des actes de terrorisme, des actes de barbarie qui sont commis au nom de la défense du prophète de l'islam, il est important de rappeler cela et d'éviter à nos jeunes, aux générations futures, toute mauvaise interprétation et tout amalgame entre les prêcheurs, ce que veulent obtenir les prêcheurs de la haine, et revenir aux vraies valeurs de l'islam, qui sont des valeurs de paix, de miséricorde, de respect de l'autre et de renforcement du vivre ensemble. plus que jamais, nous avons besoin de se remémorer ces enseignements du prophète.
C'est une fête qui n'est pas canonique, cela reste une fête particulièrement importante.
Oui, il y a les deux grandes fêtes dans l'islam qui sont la fête d'Aïd al-Fitr à la fin du Ramadan et la fête d'Aïd al-Adha qui commémore donc le sacrifice du prophète Abraham. Et au-delà de ça, donc il y a ce moment fort de l'année qui est la naissance du prophète. Ce n'est pas une fête religieuse en tant que telle, mais c'est un moment fort pour justement se rappeler, se remémorer et revisiter ce que nous indiquent les valeurs de l'islam, qui sont pour moi totalement compatibles avec les valeurs de la République, malgré ce que veulent véhiculer certains prêcheurs de haine, des hommes et des femmes politiques. L'islam et la République sont totalement compatibles. On peut être un très bon musulman et un très bon citoyen français. Et il faut faire la démonstration de cette osmose et de cette symbiose qui peut se faire.
Cette compatibilité que vous évoquez, estimez-vous qu'elle est trop souvent remise en question aujourd'hui dans ce contexte de pré-campagne présidentielle?
Oui, tout à fait. Nous voyons bien que le sujet, ça devient même un sujet de campagne, un sujet central de campagne, de la compatibilité de l'islam et de la République. On constate une libération de la parole à ce niveau-là, véhiculée par certains pré-candidats qui ne se sont même pas encore déclarés candidats à l'élection présidentielle et qui se permettent d'afficher et d'affirmer que l'islam est totalement incompatible avec les valeurs de la République, chose que nous dénonçons totalement. Et je pense qu'il est important qu'un certain nombre de voix, d'hommes d'esprit de paix et d'hommes d'État rectifient le tir et derrière prennent la parole justement et démontrent par leur action qu'ils peuvent compter sur la composante musulmane de la société française, cette composante musulmane qui fait partie entière de la communauté et partie intégrante de la communauté nationale et qui en partage les valeurs, qui en partage le destin.
Et quel est le meilleur moyen, selon vous, de répondre à ce type de propos?
Il y a la parole, mais il y a aussi les actes. La parole, c'est important de démonter, je dirais, point par point, tous les arguments qui sont avancés par ces teneurs de cette thèse du remplacement et de l'incompatibilité de l'islam et de la République. Il faut répondre du tac au tac, si j'ose dire. Mais il faut également démontrer ceci par la parole, sur tous les actes sur le terrain. Et donc, les citoyens français de confession musulmane ont une responsabilité énorme de ce point de vue. Et ils doivent être les ambassadeurs du vivre ensemble, les porteurs de ces valeurs de modération et de tolérance et de respect de l'autre. Ils doivent le démontrer au jour le jour d'une manière positive, en participant d'une manière constructive au vivre ensemble et à la vie de la cité, à côté de leurs concitoyens de toute confession et de toute conviction.
Le président du Rassemblement des musulmans de France, ex-président du CFCM, Anouar Gbibesh. Des bombardements de l'armée syrienne ont eu lieu ce mercredi matin dans la région d'Idleb. 8 personnes, dont 5 civils, ont été tuées. L'armée a pilonné un quartier animé de la ville d'Aria. Les bombardements ont touché la ville ravagée par la guerre au moment où des enfants se rendaient à l'école. Les bombardements ont aussi fait au moins 26 blessés. Toujours en Syrie, au moins 13 personnes ont été tuées ce mercredi dans un attentat à la bombe visant un bus militaire à Damas. C'est la plus importante attaque de ce type dans la capitale syrienne depuis des années. Une nouvelle hausse significative des prix des carburants au Liban. Une hausse de près de 25% pour le sans-plomb et de 15% pour le diesel par rapport à la semaine dernière. Une annonce du ministère libanais de l'énergie. Une annonce sur fond de mesures visant à réduire les subventions aux carburants en plus de l'augmentation des cours du brut sur les marchés mondiaux. La crise du carburant est l'une des répercussions les plus importantes d'une grave crise économique que traverse le Liban, une crise qui a provoqué un effondrement financier et un manque de devises étrangères suffisantes pour importer des produits de première nécessité, comme par exemple les médicaments. La médecin et militante algérienne Amina Bouraoui est condamnée à 2 ans de prison, une nouvelle condamnation en appel. Amina Bouraoui a déjà été condamnée pour plusieurs chefs d'accusation, dont atteinte à la personne du président de la République. L'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie basée dans le Rhône a été dissoute ce mercredi en Conseil des ministres. Une annonce du ministre de l'Intérieur pour qui, selon son propos sur Twitter, cette association appelait à la haine, à la violence et à la discrimination. Le ministre qui a publié sur son compte Twitter le décret de dissolution pris en Conseil des ministres. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient en grève. Hier, ils dénoncent la dégradation constante de leurs conditions de travail et demandent l'obtention du statut de fonctionnaire. Entretien avec Julien Pérez, secrétaire départemental de la CGT Éducation.
Le rôle des AESH, on va considérer que c'est indispensable, leur mission, puisqu'ils aident les élèves en situation de handicap. Ils sont donc indispensables à la bonne inclusion de ces élèves et finalement, au bout du compte, à ce que l'égalité des chances et l'égalité de traitement soient opérationnel entre les élèves en situation de handicap et les autres.
Et vous déplorez aujourd'hui une dégradation de leurs conditions de travail, cela se traduit comment ?
Dégradation, c'est clair, en fait, les conditions de travail n'ont jamais été bonnes, c'est-à-dire que depuis la loi de 2005 sur l'inclusion des élèves en situation de handicap, les assistants avant de vie scolaire et aujourd'hui les accompagnants d'élèves en situation de handicap n'ont jamais eu un vrai statut, c'est-à-dire qu'ils sont maintenus dans la précarité. Ce sont tous des contractuels qui sont, qui plus est, en train de subir des temps partiels non choisis, c'est-à-dire qu'aucun et aucune d'entre elles n'a un temps plein, ce qui équivaut pour elles et pour eux à des salaires qui sont aux alentours de 800 euros maximum par mois. On est donc dans des situations de précarité extrême.
Et vous demandez aujourd'hui l'obtention du statut de fonctionnaire pour les assistants d'élèves en situation de handicap ?
Tout à fait. L'amélioration des conditions de travail passe forcément par l'établissement d'un statut de fonctionnaire qui leur permettrait du coup d'avoir un temps plein, rémunéré au minimum du SMIC, voire plus, en fonction de l'importance de leur mission, bien sûr. Et ce statut de fonctionnaire permettrait aussi d'organiser beaucoup mieux, notamment le mouvement des personnels, le choix des établissements dans lesquels ils et elles doivent intervenir, etc., etc. Donc, bien évidemment, ça passe par l'obtention de ce statut.
La majorité de ces personnes sont des femmes et une petite partie d'entre elles sont en CDI.
C'est ça, en fait, au bout d'un moment, la multiplication des contrats à durée déterminée fait que légalement, ils sont transformés en CDI. Mais c'est une disposition relativement récente, c'est à partir du moment où les collègues ont fait, elles ont fait plus de 6 ans de CDD. Donc vous voyez bien que le problème de la précarité, y compris à travers les dispositions contractuelles, est bien présent et bien révélé à travers la multiplication des CDD.
Quelle est leur formation ?
Les formations sont multiples parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a des profils très variés. Il y a des gens, des collègues qui ont même parfois des diplômes de l'enseignement supérieur et qui, faute de trouver du travail dans d'autres secteurs d'activité, sont AESH. Et ensuite, nous, ce qu'on déplore, c'est surtout que les formations internes à l'éducation nationale sont très, très insuffisantes, voire même parfois inexistantes, c'est-à-dire qu'on propulse comme ça des AESH dans des classes où il y a des élèves en situation de handicap sans même les avoir formés au préalable. Donc, effectivement, le problème de la formation est aussi au cœur de nos revendications.
Et vous avez mis en lumière leur salaire qui est en dessous de 800 euros net par mois en début de carrière.
Oui, c'est ça, c'est une question de temps partiel contraint. Donc en fait, ils estiment que de toute façon, les horaires scolaires ne peuvent pas permettre à une AESH de faire 35 heures par semaine. Donc on leur impose de faire 26 heures, 27 heures en les payant à temps partiel. Donc c'est un temps partiel subi, contraint, et ce qui crée bien évidemment des répercussions sur la paye, puisque pour ces 26 heures ou 27 heures hebdomadaires, les collègues sont payés aux alentours de 800 euros. C'est donc des niveaux de salaire qui sont tout simplement pas concevables et pas respectueux ni de leur mission, ni de leur niveau de vie.
Julien Pérez, secrétaire départemental de la CGT Éducation. L'épidémie de Covid-19 en France, le taux d'incidence est reparti en légère hausse. Les nombres d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques ne diminuent plus. Pour éviter une cinquième vague, le gouvernement souhaite mobiliser sur la campagne de rappel. Le gouvernement n'exclut pas la possibilité de conditionner le pass sanitaire des Français à l'injection d'une dose de rappel. Sont concernées les personnes de plus de 65 ans, les personnes de plus de 12 ans qui ont reçu le vaccin monodose Janssen et celles qui souffrent d'une pathologie à haut risque, d'une comorbidité ou qui sont immunodéprimées. La dose de rappel peut être administrée 6 mois après un schéma vaccinal complet. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris Les Républicains, porte-parole de Xavier Bertrand, candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Il évoque notamment les propositions de Xavier Bertrand en matière d'immigration. Jean-Didier Berthaud.
Écoutez, je vais vous dire les propositions en matière d'immigration, notamment de maîtrise de nos flux migratoires, parce que l'immigration, c'est très, très large. Xavier Bertrand l'a fait depuis la fin de l'année dernière, donc il n'a pas attendu l'irruption d'Éric Zemmour dans le débat et dans les sondages, puisqu'il n'est encore pas candidat, Éric Zemmour, mais au moins cette percée dans les sondages pour faire des propositions, des propositions claires qui sont aussi d'ailleurs pour certaines basées sur son expérience de président de région. Je prends l'exemple des accords du Touquet, de la renégociation des accords du Touquet, une mise en place de patrouilles maritimes franco-britanniques dans la Manche, et puis une application aussi ferme des lois de notre République. Je crois qu'il a un discours très clair, un discours aussi de proposer aux Français un référendum très rapidement pour que des quotas en fonction de nos besoins soient votés par le Parlement, et ça passera aussi par un référendum qu'il va proposer dès l'année 2022. Mais je crois que en matière d'immigration, il a des propositions qui sont des propositions fortes mais raisonnables. Et sur l'islamisme radical, lui-même, dès le mois de novembre 2019, avait eu l'occasion, je crois que c'était lors d'une émission au grand jury, de dire que les musulmans eux-mêmes devaient se mobiliser contre l'islam politique et que la laïcité était le quatrième pilier de notre République, avec une valeur constitutionnelle, c'est ce qu'il souhaite mettre en avant. Mais vous le savez, cette fermeté et ce discours aujourd'hui construit, mûri, réfléchi, il existe chez mon candidat, mais toute la campagne électorale ne pourra pas se faire autour de cette thématique. On voit bien que c'est ce que cherche à imposer Éric Zemmour, mais il cherche à l'imposer de façon à diviser la société. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que cette autorité, justement, la renforce et que nous arrivions à avoir un projet commun, mais que cela soit aussi crédible vis-à-vis de nos concitoyens, qui, notamment, je pense, sur l'immigration illégale, sur le flux de clandestins qui rentrent dans notre pays, voient que nous faisons face à une vague qui est difficilement arrêtable aujourd'hui, que des véritables mesures soient prises. Et on le sait aujourd'hui, ce sont notamment beaucoup de nos compatriotes d'origine étrangère qui nous le demandent aussi, de façon à ne pas, eux, subir la stigmatisation liée parfois de façon trop hâtive par les candidats d'extrême droite aux étrangers en général. Et c'est très important de pouvoir avoir ce discours. C'est ce que Xavier Bertrand d'ailleurs a souligné, c'est que personne n'est au-dessus des lois de la République, mais personne n'est en dessous non plus.
Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris Les Républicains, porte-parole de Xavier Bertrand, candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.